La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h chaque jour. Des patronnes, des patrons traversent la crise en faisant bouger les lignes des associations, mais aussi des start-up qui bâtissent déjà le monde de demain. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Aujourd'hui, un numéro 1 mondial, le leader des trains à hydrogène. Alstom équipe déjà l'Allemagne, la SNCF devrait bientôt en avoir. Alstom qui réinvente les trains du quotidien, qui réinvente le TGV de demain. Le train, le mode de transport qui pourrait sortir gagnant de cette crise. Henri Poupard-Lafarge, patron d'Alstom, est notre invité jusqu'à 14h.
Elle a une en effet, Emmanuel. Et si on imaginait un train du futur pour les zones rurales, on en parle avec le fondateur de TaxiRail, une solution pour les petites lignes ferroviaires qui luttent contre la désertification rurale.
Ce train a été mis en service en 1883, 136 ans après, le train de l'Orient Express fait toujours rêver. Il est sur le point d'être ressuscité. C'est notre saga du jour dans La France bouge.
Et bien sûr, les trophées européens. Nous avons retenu aujourd'hui la start-up Hydratis, une pastille qui favorise l'hydratation quand on a chaud. Le fondateur va-t-il convaincre notre patron du jour ? Réponse à 13h50.
Et en fin d'émission, demain au travail avec cette question, comment améliorer la qualité de vie au travail pour tout le monde ? Eh bien, on a trouvé pour vous une pépite.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Allez, La France bouge, hein, c'est l'émission de toutes ces initiatives qui font bouger la France. Aujourd'hui, la révolution hydrogène qui est en marche, notamment dans le monde du train. Et si la solution, justement, pour réduire la pollution venait peut-être, allez, d'une simple goutte d'eau.
Et on va en parler avec vous. Bonjour Henri Poupard-Lafarge.
Bonjour.
Je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu de votre micro. Soyez le bienvenu. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG d'Alstom, un des leaders mondiaux du transport ferroviaire. Alstom fabrique notamment le TGV. On parle train à hydrogène aujourd'hui. Le plan de relance va permettre d'investir 7 milliards d'euros d'ici à 2030 dans ce secteur. Des trains Alstom à hydrogène roulent déjà en Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'un train à hydrogène apporte et quelle économie d'énergie réalisée avec ces trains à hydrogène ?
Écoutez, un train à hydrogène permet de remplacer les trains diesel parce que, j'allais dire malheureusement, la moitié des lignes ferroviaires en Europe ne sont pas électrifiées et nécessitent des trains diesel qui sont polluants comme les camions diesel et tout ce qui fonctionne au diesel. Le train à hydrogène permet de fonctionner sur ces lignes-là, sur la base donc, de l'énergie hydrogène grâce aux piles à combustible, sans avoir à électrifier les lignes, ce qui est toujours très, très, très onéreux. Donc effectivement, l'Allemagne a fait ce pari-là et notre train en Allemagne a fait plus de 200 000 km, donc il fonctionne extrêmement bien et nous attendons avec impatience qu'il vienne en France.
Alors vous attendez, la SNCF avait annoncé hein, il y a un an environ qu'ils allaient vous acheter des trains à hydrogène, mais on n'a pas trouvé le bon de commande. C'est pour quand ?
Non, le bon de commande est toujours dans le tiroir, mais il est en train d'être finalisé. Il faut comprendre que le train à hydrogène, c'est tout un système. C'est-à-dire qu'il y a le train qui fonctionne avec les piles à combustible, mais il faut prévoir des stations de recharge à hydrogène. Il faut aussi fabriquer cet hydrogène à partir de l'électricité, à partir de l'électrolyse pour qu'elle soit verte. Et donc, ça nécessite de la mise en place de toute une solution, un système.
De façon concrète, je vous repose la question, quand est-ce que les premiers trains à hydrogène vont arriver du côté de la SNCF ? Logiquement, c'était 2021-2022 pour la mise
voilà,
en service.
On a parlé l'année dernière à la même époque, donc on a perdu en quelque sorte un an, donc on est plutôt 2022-2023.
Mais vous êtes sûr qu'ils vont vous signer votre
contrat ? Le contrat va être finalisé très rapidement, parce que vous avez parlé du plan de relance en faveur du ferroviaire, mais vous savez aussi qu'il y a un gros plan de relance en faveur de l'hydrogène, qui encore une fois est important parce que c'est tout un écosystème.
Alors est-ce que la France peut vraiment être le leader dans le mode de transport de l'hydrogène vert ?
Alors tout à fait, dans l'hydrogène décarboné. D'abord, la France a un grand nombre d'atouts, une électricité qui est peu chère. Effectivement, nous-mêmes, nous avons développé à Tarbes cette propulsion à hydrogène. Il y a des briques qu'il manque encore, les piles à combustible, mais des grands industriels, comme vous savez, s'y attachent. L'électrolyseur, là aussi, des industriels et des start-up commencent à développer des électrolyseurs. Et puis, j'allais dire, c'est un domaine dans lequel la bataille n'est pas jouée. Si on compare avec la batterie, par exemple, qui est plus mûre et pour laquelle il y a déjà des grands opérateurs internationaux, mondiaux, et ça sera beaucoup plus difficile de revenir. L'hydrogène, tout reste à faire. Et donc, oui, la France peut jouer un rôle majeur.
Parce que, certes, c'est très bien utilisé et c'est très bien pour l'écologie quand on l'utilise, mais on ne sait pas encore produire de l'hydrogène vert. Et c'est ça la véritable recherche qu'on essaye de faire aujourd'hui. On ne sait pas faire de l'hydrogène propre encore à la fabrication.
Alors, on sait le faire.
On sait le faire, mais on ne le développe pas beaucoup.
On ne le développe pas assez. Effectivement, il y a une chaîne entre de l'énergie décarbonée, puis des électrolyseurs, et enfin du stockage de l'hydrogène. Et donc, c'est tout ce qui est en train d'être fait. Mais l'Allemagne, par exemple, dans son dernier plan hydrogène, lance des appels d'offres pour la mise en place de stations de recharge qui comprennent l'ensemble de ces éléments.
Alors, Henri Poupart-Lafarge, vous allez un petit peu nous faire rêver quand même, parce que le RER en Île-de-France nouvelle génération vient d'être présenté. Deux étages, de larges portes pour faciliter l'accès, de vastes allées éclairées d'un wagon à l'autre, des prises USB pour les portables. Quelle est l'idée de ces trains au quotidien ?
Il faut rendre... La mobilité quotidienne est quand même souvent une mobilité subie.
Il faut qu'elle soit agréable.
Il faut qu'elle soit agréable. Il faut qu'elle soit la plus fluide possible. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous ayez d'incertitudes sur l'heure d'arrivée de votre train, sur les correspondances, etc.
Donc agréable et efficace.
Agréable et efficace. Beaucoup de lumière, effectivement des espaces sécuritaires aussi, parce qu'il y a un sentiment de sécurité par voiture. Il y a 90% de l'espace de chacune des voitures sera filmé. Donc, un grand sentiment de sécurité. Effectivement, les nouveaux, on a dévoilé, si je puis dire, la semaine dernière, le nouveau RER. Et vous avez des espaces BOA.
Qui doit entrer en fonctionnement au courant de l'année prochaine.
Exactement. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez voir l'ensemble du train, à la fois dans les salles basses et dans les salles hautes, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui dans les RER actuels. Avec des espaces un peu différents, parce que le RER, vous pouvez prendre des distances très longues, ou au contraire des distances très courtes, donc des espaces différents pour les différents usages. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre le voyage le plus agréable.
Plus largement, le TGV aussi est en train d'être repensé en ce moment. Alors là, un horizon un peu plus lointain, aux alentours des JO, logiquement, vers 2024, on devrait avoir des TGV complètement modernisés, dans lesquels notamment on pourra mettre plus de monde, 20% de passagers en plus, et pour autant, vous rajoutez pas de wagons. Comment vous réussissez la prouesse? On va être moins bien installé?
Ah non, pas du tout, vous serez beaucoup mieux installé. C'est intéressant cet exemple du TGV, parce que cela montre que, par exemple, sur un Paris-Lyon, en changeant le TGV, on rajoute 20% de place en plus. En mettant un nouveau système de signalisation, on met 16 trains au lieu de 13 trains à l'heure. Donc on va pouvoir transporter 40% de personnes en plus avec le même confort. Alors comment nous avons fait? Nous avons réduit la longueur des motrices de manière à avoir plus de mètres linéaires pour le confort de nos passagers. Et puis nous avons concentrer tous les appareillages techniques dans les motrices, ce qui permettra d'avoir aussi un bar beaucoup plus lumineux avec beaucoup de visuels.
Donc ça va être typiquement, ceux qui se demandaient pourquoi il n'y avait pas de bar sous la voiture bar dans les TGV à deux étages. Maintenant, il y aura un espace puisque
vous pouvez faire un bar
tout
à deux étages.
Ce qui était en dessous, sous le train maintenant.
Exactement, vous pouvez faire des bars mezzanines, des choses très innovantes.
On aménage l'espace dans les trains. Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom, vous restez avec nous.
Europe 1. 13h18 sur Europe 1.
À suivre, un train autonome destiné aux petites lignes dans les zones rurales.
Et oui, ça permettra de désengorger les routes. Ça s'appelle Taxi Rail. Son fondateur est avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et on pourrait appeler ça la France roule aujourd'hui avec la révolution du train avec notre invité Henri Poupart-Lafarge, le patron d'Alstom.
Et avec vous aussi, bonjour Michel Albrand.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur associé de Taxi Rail, fondateur du Taxi Rail. Taxi Rail, c'est un train autonome qui fait 40 places, 16 places assises, 24 debout. Et l'objectif de Taxi Rail, c'est de relier des petites lignes qui ne servent plus beaucoup, qui ont été abandonnées par la SNCF. Ça relie quel type de trajet, par exemple?
Alors, ce Taxi Rail est prévu pour évoluer sur les lignes classifiées UIC 7 à 9, c'est assez technique. Ce sont des lignes qui aujourd'hui vont être en majorité rendues en gestion aux régions. Donc ce sont les régions qui pilotent le transport régional. Et sur l'ensemble de ces petites lignes, qui elles ne sont à 85% non électrifiées, non, nationalement c'est 50, mais sur ces petites lignes-là on est à 85%. Il fallait trouver un système qui apporte à la fois plus de cadencement pour les utilisateurs clients, le confort et la même sécurité qu'offrent aujourd'hui les TER, et un objectif de rentabilité pour les exploitants. Parce que si on regarde les différents rapports qui sont sortis, en 2018, on avait le rapport...
Sur le ferroviaire?
Oui, sur le ferroviaire, qui demandait carrément la fermeture de toutes ces petites lignes.
Oui, parce qu'elles étaient plus rentables.
Parce qu'elles n'étaient pas rentables et qu'elles coûtaient très cher. Et alors qu'en fait, le dernier rapport du préfet Philizot, lui, au contraire... considère qu'avec un train léger, on pourrait avoir une rentabilité.
Alors justement, parce que tous nos auditeurs qui sont là en voiture, à la maison, n'ont sûrement pas vu le Taxi Rail. Ça ressemble À quoi ressemble ce train?
Alors, le taxi-rail, c'est une navette qui fait 6,50 m de long par 2,90 m de large, qui peut rouler à la fois sous forme de platooning, c'est-à-dire trois navettes chaînées les unes aux autres pour le cadencement en heure fixe, et qui, à la journée, va remplir toutes les conditions de la nouvelle loi des mobilités, à savoir le transport à la demande. Mmh. C'est une navette qui pourra se commander en heure creuse à travers un système, une application smartphone.
Alors, pour nos auditeurs qui nous suivent sur europe1.fr, on peut voir en ce moment le taxi-rail en direct sur le site. Ça relie des trajets quoi, de 10, 80 km maximum?
C'est pour des lignes de 10 à 80 km, vraiment des lignes très régionales. Sur des petits parcours de 10 km, on peut travailler ce qu'on appelle en pendulaire, en aller-retour permanent, de manière à apporter un service et un cadencement régulier et suffisamment efficace pour qu'on ait vraiment l'effet maximum sur le report modal.
Et on désengorge les routes.
Voilà.
En plus.
Non seulement on désengorge les routes, mais en plus, il faut savoir que la vraie économie de CO2, et si on veut vraiment rentrer dans la transition écologique, ce n'est pas en remplaçant les TER diesel, même si on produira moins de CO2, avec des trains électriques, c'est en organisant le report modal de la route vers le rail, puisque là, on parle de millions de tonnes de CO2 qui sont produites par les voitures.
Oui, parce que c'est ça qui est passionnant dans votre démarche, c'est que vous allez vraiment vous adapter finalement en temps réel à la demande. Quand il n'y a personne qui veut prendre le train, bah, il ne roule pas. C'est ça qui est peut-être presque le plus important dans votre projet.
C'est l'application de ce que demande la loi, le transport à la demande. Le transport à la demande ou...
Là, c'est du sur-mesure.
C'est du sur-mesure. En heure creuse, on pourra appeler le train en fonction de sa disponibilité. Et ça fonctionne sur le principe de l'ascenseur horizontal.
Et quand est-ce qu'il sera vraiment disponible? Parce que là, on est encore sur un prototype.
On travaille actuellement sur le prototype. Alors, le premier prototype sera un prototype batterie standard. Et ensuite, la série sera sur un véhicule hybride série diesel-gaz.
Et vous espérez faire rouler quand?
Diesel-gaz, pardon. Je vous me fais dire une bêtise. Gaz électrique. Et une version hydrogène également.
Alors, vous en êtes où en ce moment dans vos discussions avec l'État? Ça avance
Écoutez, nous sommes aujourd'hui en même temps au ministère, puisqu'il y avait un comité interministériel pour l'innovation dans le transport et notamment dans le ferroviaire. Nous y étions déjà invités le 9 mars. Là, nous sommes réinvités, ce qui tente à prouver que notre projet a une certaine crédibilité. Et nous en sommes aujourd'hui au prototypage de notre véhicule.
Henri Poupart-Lafarge, c'est un concurrent pour vous qui est l'un des leaders mondiaux du transport ferroviaire?
Écoutez, c'est une initiative extrêmement intéressante. Il faut qu'on puisse valoriser ces petites lignes. C'est un système complet, donc il faut des véhicules, il faut une réglementation adaptée, parce qu'en général, la réglementation est trop lourde pour ces petits véhicules. Il faut des systèmes de gestion digitaux, parce que tout ça nécessite bien sûr, à la demande, il faut pouvoir communiquer avec la navette, etc. Donc oui, ça fait partie des solutions potentielles pour le désengorgement des petites lignes.
Et l'ultra-modularité des trains, c'est aussi ce pourquoi vous travaillez, par exemple, pour le futur TGV dont on parlait il y a un instant. C'est-à-dire que vous voulez pouvoir transformer en une demi-journée une première classe en deuxième classe pour s'adapter à la demande du moment, ou en TGV Inouï, en Ouigo, qui est le low-cost de la SNCF.
Oui, exactement. Donc on conçoit le TGV, il y a des rapprochements comme des tubes pour pouvoir les adapter, comme vous le dites. Et aussi, par rapport au TGV actuel qui n'est pas sécable, le TGV du futur, vous pouvez retirer une voiture. Donc là aussi, s'il y a un peu moins de demande, au lieu d'avoir 8, 9 voitures, vous en tirez une, deux, trois. Ça permet de s'adapter à la demande. Très important.
Michel Albran, quelles sont les régions en ce moment qui sont intéressées?
Écoutez, nous avons beaucoup de demandes. Plusieurs.
Lesquelles?
Alors, nous avons Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons les Vosges également, le Grand Est donc. Nous avons les Hauts-de-France, nous avons Nouvelle-Aquitaine qui se renseignent sur notre taxi-rail et qui sont intéressés justement par rapport à ces petites lignes, rapport à la problématique spécifique.
Donc
de ces
vous allez
lignes.
Inonder le paysage français normalement avec les taxi-rails.
Écoutez, nous espérons inonder l'Europe puisque la problématique est la même partout en Europe.
Merci en tout cas Michel Albran. Je rappelle que vous êtes le directeur associé de Taxi-rail.
Europe 1. Et Henri Poupart-Lafarge, le patron d'Alstom, est notre invité pour le moment, 13h25.
Il a été mis en service en 1883. Il est sur le point d'être relancé, puisqu'il s'était arrêté en 2009. Il reliait Paris-Vienne, puis Paris-Venise, puis Paris-Constantinople. L'Orient Express, l'un des joyaux du patrimoine ferroviaire français. C'est notre saga du jour. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et comme chaque jour, on est très heureux avec Elisabeth de vous accompagner sur Europe 1 jusqu'à 14h. Aujourd'hui, on parle train du futur avec notre invité, le leader mondial du secteur, Henri Poupart-Lafarge, le patron d'Alstom. Vous disiez tout à l'heure d'un mot, il faut que les trains soient plus sécurisés, mais aussi qu'ils arrivent plus à l'heure. Pour qu'ils arrivent à l'heure, il faut aujourd'hui plus de numérique, et ça permet de mieux gérer le trafic. C'est un des pans énormes sur lesquels vous êtes en train de travailler du côté d'Alstom.
Oui, en fait, vous savez que plus des deux tiers des ingénieurs d'Alstom sont en fait des ingénieurs informaticiens qui travaillent dans le digital. C'est très important de sécuriser les trains. On part de la maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'il faut prévoir les pannes, parce que pour arriver à l'heure, il faut déjà arriver, c'est une première chose. Et puis, il y a des systèmes de contrôle du trafic pour éviter que se créent des incidents dans des nœuds un peu importants. En plus, alors ça c'est le deuxième point, le troisième point c'est l'automatisation des trains qui permet une conduite la plus fluide possible et qui évite tout incident humain.
Mais là, de façon très claire, je suis sûr qu'il y a pas mal de tireurs qui se disent il est bien gentil le patron d'Alstom, mais mon train arrive quand même toujours en retard. Donc en quoi demain, grâce au numérique, vous pensez être capable d'accompagner vos clients comme la SNCF pour que nos trains arrivent à peu près à l'heure?
Alors très concrètement, il y a évidemment l'infrastructure qui est importante et l'argent... et mouillé dans le cadre du plan de relance sur l'infrastructure. Il y a beaucoup
d'investissements. Donc là, vous dites, la SNCF, faites votre boulot et réparez vos rames.
Non, ça, c'est une première chose. Le train doit détecter. Derrière, le train aide à détecter les problèmes d'infrastructure. On a des systèmes dans les caisses des trains qui viennent surveiller en permanence les rails. Donc, c'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive qui s'applique au train, mais également aux rails. Et puis ensuite, quand il y a des incidents, et ça a été vu récemment quand il y a eu un incident, ça peut durer des heures. Ce qui est très important, c'est le rétablissement du trafic. Et pour rétablir le trafic, c'est là où le digital prend tout son cœur, j'allais dire. Il faut trouver d'autres navettes. Si elles sont autonomes, elles peuvent aller sur place toutes seules, plus facilement. On peut redémarrer plus facilement. On met aussi des batteries dans le TGV du futur dont on parlait tout à l'heure. On met une batterie spécifique qui va permettre au TGV, même s'il perd l'alimentation, d'aller se garer. Parce qu'un des problèmes des trains, c'est que si le train il est planté au milieu d'une voie, on voit bien, personne ne peut le doubler. Au moins, il aura une batterie autonome qui lui permettra d'aller se garer jusqu'à la prochaine gare et laisser passer les autres.
Alors, vous parliez d'infrastructure. L'infrastructure est essentielle pour les trains autonomes, pour l'arrivée du train autonome. C'est un défi pour vous, puisque pour l'instant, on sait manier le train autonome dans des milieux fermés, notamment dans le métro, dans toutes ces infrastructures fermées. Qu'en est-il quand ce sera en plein air, quand ce sera ouvert?
Alors, c'est le défi. Effectivement, les métros, ça marche depuis un certain nombre d'années maintenant en milieu fermé. Il y a tout un système de radar pour pouvoir détecter à l'avance les objets. Ça servira aussi d'ailleurs pour les passages à niveau, pour essayer, parce qu'aujourd'hui, vous avez un véhicule malheureusement sur un passage à niveau, le train ne le détecte pas. Donc il faut pouvoir détecter que ce soit des corps froids, des corps chauds.
Le train autonome pourra le faire.
Le train autonome le fera. Et c'est bien tout le défi, puisqu'il ne s'agit pas de le détecter à 100 mètres, à 200 mètres, mais il s'agit de le détecter à 1 ou à 2 km, parce qu'un train, un TGV, met énormément de temps pour s'arrêter. Et c'est là tout le défi, et bien sûr par toutes conditions météorologiques. Donc le problème, ce n'est pas tellement la conduite du train elle-même, et ça on peut le faire. Il y aura
tout ce qui va autour.
C'est tout ce qui va autour. Et donc pendant un certain temps, en fait, le train fonctionnera automatiquement avec un logiciel qui permettra d'économiser de l'énergie, parce que la machine va conduire le train de manière plus optimale.
Donc il sera semi-piloté un petit peu.
Voilà, mais il y aura quand même un conducteur qui restera là pour précisément pour vérifier que tous les objets qui sont sur la voie sont bien détectés. Donc ça mettra quelques années pour pouvoir tout détecter.
Mais ces trains, ils arrivent quand en circulation? Les premiers, par exemple, là, pour la SNCF, c'est quand?
Nous avons déjà des expérimentations avec la SNCF sur les trains à conduite automatique. Donc ça, c'est dans les toutes prochaines années. C'est dans 2-3 ans, il y aura des trains à conduite automatique. Pour les trains complètement autonomes, en grande ligne, il faut compter quand même plus entre 5 et 10 ans.
Quelles sont les économies réalisées avec les trains autonomes? Ce sera quoi?
C'est d'abord et avant tout des économies d'énergie. C'est 10 à 15 % d'énergie consommée en moins quand le train se fonctionne tout seul. L'autre économie, c'est de la flexibilité en opération. C'est pour pouvoir mettre un train en ligne alors que sans avoir quelqu'un qui attend 24 heures sur 24 pour savoir s'il y aura un incident ou pas.
Votre actualité aussi chez Alstom, c'est que vous allez fusionner avec un autre géant du secteur, un Canadien qui s'appelle Bombardier. Vous aviez voulu vous marier avec Siemens, mais ça n'avait pas marché. Donc vous avez reporté vos velléités sur ce Canadien Bombardier. Là aussi, très concrètement, ça va servir à quoi? À ce que vous ne mourriez pas parce que vous serez plus grand et vous pourrez combattre vos concurrents chinois?
Je crois que le but, ce n'est pas d'être plus grand pour être plus grand. Je crois qu'il y a deux objectifs à ce mariage. Le premier, c'est l'innovation. On est à une phase de transition de la mobilité pour laquelle l'innovation est absolument clé. Et on le voit, tous nos clients nous demandent, on parlait du digital, on parlait de l'attraction, on parlait de l'optimisation des trafics, etc. Énormément d'innovation. Donc il faut avoir une base plus large pour pouvoir innover dans tous les pays du monde. Et c'est bien le second point également. Bombardier est une entreprise globale, complémentaire de celle d'Alstom, qui a un historique différent et qui va nous permettre d'adresser tous les marchés dans le monde au plus près de nos clients.
Donc vous allez pouvoir rester compétitif. Malgré tout, à cause de ce mariage, vous allez devoir céder votre usine de Reichshoffen, qui est une usine en Alsace, qui est une usine que vous aviez. Quand on voit aujourd'hui le scandale autour de l'usine Bridgestone, vous faites comment pour faire ça proprement?
D'abord et avant tout, ce que l'on souhaite faire, c'est céder l'usine à un repreneur qui lui donnera un avenir. Nous trouvons des acheteurs dans le ferroviaire qui comptent faire de cette usine leur fer de lance pour l'Europe de l'Ouest. Donc il faut s'assurer...
Vous avez des pistes déjà.
Nous avons des pistes. Il faut s'assurer que les acheteurs soient industriellement, financièrement, économiquement à même de soutenir cette usine pour l'avenir. Et d'ailleurs, nous avons demandé à ces acheteurs de présenter leur projet aux salariés de Rachofen.
Vous aviez vous-même connu une grosse polémique quand vous aviez annoncé que vous vouliez fermer une des usines Alstom dans l'Est de la France. Quand vous entendez là le cas Bridgestone, ça vous dites quoi? Vous vous dites on ne pourra jamais fermer une usine. Quelle serait votre réaction à cette affaire?
Non, écoutez, je ne connais pas l'affaire dans le détail. Si je fais un parallèle avec notre affaire Belfort, ce que je dis c'est qu'effectivement on est mieux à traiter les choses en amont que pendant la crise. Nous n'avions pas su le faire à l'époque puisque la crise était très ouverte. Et je crois qu'on est toujours mieux autour de la table à traiter les choses en amont, mais je ne connais pas ce projet plus précisément.
Alors les trains sont faits aussi pour nous transporter vers ailleurs, hein, nous faire rêver aussi. Il y en a un dont le mythe ne s'est jamais effondré et c'est l'Orient Express. Bonjour Guillaume de Saint-Léger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de la filiale commune SNCF Accor.
Exactement.
Alors avant de parler de ce nouveau lancement de l'Orient Express, parce que c'est en train de se faire, il a arrêté de circuler en 2009. On va revenir un petit peu en arrière, on va revenir au 19e siècle. Mm-hmm. Ça commence avec George Nigel Makers, un entrepreneur qui voyage aux États-Unis. Il emprunte tous les trains de nuit là-bas et en rentrant en Europe, il souhaite créer des trains luxueux. C'est comme ça qu'émergent l'embryon, les prémices de l'Orient Express.
Oui, c'est ça. Alors ce train... qu'on appelait le train des rois et le roi des trains, effectivement, a ses origines au 19e siècle. Et ce fameux voyage de George Nigel Makers aux États-Unis, dans lequel il emprunte les trains, les sleeping cars d'un autre George Pullman, qui était bien, mais qui était assez inconfortable pour cette époque. Et quand il rentre en Europe, il décide d'appliquer ce concept et va jusqu'au bout en créant des trains extrêmement luxueux. Justement dans lequel il va mettre par exemple l'électricité, le chauffage, la gastronomie embarquée, des véritables compartiments cabines là où les trains américains, il y avait un seul couloir central, etc. Mmh. Donc voilà, il fait plein de choses qui vont faire de ce train vraiment le train le plus luxueux au monde.
Alors en 1872, il crée la compagnie des chemins de fer de luxe total, hein, la compagnie internationale des wagons-lits. Ouais. Et dans cette compagnie, plusieurs circuits avec à chaque fois plusieurs trains, le Rent Express, le train bleu. On est dans cette période où le voyage en train devient une expérience unique, une expérience à part.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on connaît tous l'Orient Express. Il y en a créé d'autres. Le fameux transsibérien entre Moscou et Vladivostok. Le train bleu qui faisait Paris-Nice. Et un autre qui est plus extraordinaire, qui était le Taurus Express, qui partait d'Istanbul sur la rive asiatique et qui rejoignait Alep, Bagdad, Le Caire, etc. Donc, est-ce que vous imaginez aujourd'hui pouvoir voyager en train là-bas? Non. C'était complètement incroyable.
Et c'était possible à l'époque.
C'était possible.
Alors, on va revenir peut-être à aujourd'hui maintenant, parce que là, vous nous faites tellement rêver avec Elisabeth. Les valises sont prêtes, on part avec vous. Comment vous allez recréer ce mythe dont vous êtes en train de nous parler, cette histoire extraordinaire?
En fait, ce mythe, il a quand même plusieurs dimensions. Nigel Makers avait créé une famille de trains de luxe, avait aussi créé la première chaîne de palaces au monde, avec des palaces depuis Paris jusqu'à Istanbul, Madrid, etc. Donc aujourd'hui, on a cette même approche, c'est-à-dire une approche multiple, où on va s'intéresser aux futurs trains de luxe, et je crois qu'on va en parler dans un moment, aussi aux hôtels de luxe, et c'est ce qu'on va faire avec Accor en ouvrant une collection d'hôtels de luxe, mais aussi en développant une collection de produits de luxe, justement, dans l'art de vivre, voilà, et aussi via des livres qu'on peut sortir, des expositions itinérantes. Donc c'est en fait très très multiple, et cette multiplicité était en fait le projet du fondateur du train aussi.
Donc Guillaume de Saint-Léger, toute votre équipe va s'activer pour développer tout ce que vous venez de nous dire autour de cette marque qu'est l'Orient Express.
Tout va s'appeler,
même cette l'hôtel.
Cette marque est mythique, exactement.
L'hôtel, tout ce qu'on va trouver, ce seront une espèce de produits dérivés de l'Orient Express.
Oui, un produit dérivé
de luxe. En tout cas.
Voilà, exactement, oui, c'est ça.
Et quand est-ce qu'alors on va pouvoir le faire?
Alors, vous avez peut-être dû suivre qu'on avait racheté une quinzaine de voitures absolument extraordinaires.
En plus, avec une histoire, vous les avez découvertes à la frontière biélorusse, c'est ça?
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle des trains héritiers de l'Orient Express, il y en a trois. Et le troisième avait disparu des écrans radars depuis une dizaine d'années. Et on l'a retrouvé.
Mais comment vous l'avez retrouvé?
Avec mon directeur du patrimoine, Arthur Mettetal, qui connaît bien ces trains et donc qui a fait une recherche Google dans toute la zone frontalière entre la Pologne et la Biélorussie. On les a retrouvés et on s'est rendu sur place. Et ce n'était pas une mince affaire sur place pour pouvoir y accéder, rentrer à l'intérieur, etc.
Mais donc, vous ne répondez pas à la question. Hein. Quand est-ce qu'on y retourne, nous, avec Elisabeth? Les valises sont prêtes. Hein.
Déjà, on a racheté ces voitures il y a
2017.
Ans. On les a ramenées en France. Elles sont à Clermont-Ferrand. Et ça préfigure un futur train. Alors, le futur train, après, voilà.
Elle est 2022, en tout cas.
Je ne peux pas encore dire de date.
C'est dans les tuyaux.
Voilà, évidemment, oui. Si on a racheté ces voitures mythiques qui datent toutes des années 30, c'est bien parce que, voilà.
Que vous voulez le faire. Henri Poupin-Lafarge, ça vous fait rêver?
Ah oui, complètement. J'avais toujours rêvé aussi de voyager. Il y a un train au Japon qui est un train extrêmement luxueux, qui est formidable également. Je trouve que cette façon de voyager au rythme des paysages, dans les villes, etc., est absolument... enthousiasmante.
Et de prendre le temps. Merci à vous, Guillaume de Saint-Lager. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la filiale commune SNCF Accor et vous êtes chargé de relancer ce train mythique qu'est l'Orient Express.
Europe 1.
13h40 pour le moment sur Europe 1, dans la France bouge.
Allez, direction les trophées Europe 1. Un projet, un pitch, un moment que vous attendez.
Bah oui, parce que c'est une des promesses de votre émission, découvrir ceux qui agissent et qui construisent dès aujourd'hui le monde de demain. Une capsule effervescente pour s'hydrater en cas de forte chaleur.
C'est très sérieux. Hein,
c'est très sérieux, ça s'appelle Hydratis et on va découvrir tout cela tous ensemble dans un instant. Et c'est parti pour ce moment que vous attendez, les trophées européens. Ils osent, ils se lancent, on les écoute chaque jour pitcher devant l'œil attentif et exigeant de notre patron du jour, Henri Poupin-Lafarge, le patron d'Alstom.
Et avec vous, Jérémy Bouet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur d'Hydratis. Ça fait un an que vous travaillez sur ce projet, sur le projet Hydratis. Et en février dernier, vous avez lancé une capsule effervescente qui permet de lutter contre la déshydratation. Nous, ça nous a beaucoup interpellés en préparant l'émission avec Emmanuel.
Effectivement.
Et on vous a choisi, mais avant d'essayer de comprendre pourquoi, hein, vous allez nous dérouler ce qu'on appelle le pitch. C'est parti, vous avez une minute.
Alors après plusieurs voyages à l'étranger avec mon associé, où on a vécu des situations de déshydratation, on a décidé de s'intéresser au problème et on a appris que 75% des Français étaient déshydratés quotidiennement. Donc c'est un chiffre qui peut surprendre, surtout en France. Et pourtant, ça nous concerne tous. Ça peut se traduire par des maux de tête, de la fatigue, baisse de concentration ou des crampes. Et il faut savoir que les sels minéraux sont essentiels dans ce processus d'hydratation du corps. Donc on a créé Hydratis et on a développé une première gamme. Ce sont des pastilles à dissoudre dans l'eau, comme vous l'avez dit, qui vont l'enrichir en sels minéraux et oligo-éléments afin d'optimiser et d'accélérer l'hydratation du corps. Donc ça va être très utile, par exemple, dans le sport, lors de chaleur ou canicule, de consommation d'alcool ou tout simplement parce qu'on a oublié de boire de l'eau dans la journée. Voilà. Quand on a soif, on est déjà déshydraté, ça il faut le savoir. Donc l'hydratation est vraiment fondamentale.
Ça y est, vous avez fini?
Oui.
Moins d'une minute.
Parfait.
Merci à vous, Jérémy Bouet. Vous avez donc présenté Hydratis. Alors, dans La France bouge, votre dossier, eh bien, une experte l'a passé au crible. Cette experte, c'est Nathalie Carré de la CCI France. Elle accompagne les créateurs d'entreprises, donc à la Chambre de commerce et d'industrie. On lui a passé un petit coup de fil. Écoutez les forces et les faiblesses d'Hydratis.
Trois points positifs pour l'entreprise Hydratis. Tout d'abord, le produit répond à un vrai besoin qui se décline sous plusieurs formes et touche plusieurs cibles, voire qui touche absolument tout le monde. Au-delà de ça, en ce moment, le contexte est très favorable car le port du masque peut favoriser la déshydratation. Enfin, la simplicité du produit et de son utilisation. Toutefois, un point amélioré, je dirais segmenter et expliquer une cible, un bénéfice mis en avant, ce qu'on appelle la proposition de valeur, parce que l'hydratation n'est qu'un moyen de soit limiter la gueule de bois pour les fêtards, d'éviter les crampes ou la fatigue pour les sportifs, de faciliter la concentration pour les travailleurs. Bref, vous ne devez pas vendre l'hydratation, mais son bénéfice. D'autant que si 75% des Français sont déshydratés, rien ne dit qu'ils en sont conscients. Donc il faut vraiment leur parler de ce à quoi ils peuvent s'attendre en s'hydratant beaucoup mieux. Et puis pour finir une question, quelles sont vos perspectives de développement? Est-ce que l'internationalisation est prévue? Parce qu'il y a de gros besoins dans les pays en voie de développement sur ce sujet.
Alors, Jérémy, c'était les faiblesses et les forces hein, de votre projet, d'après Nathalie Carré. C'est quoi votre perspective de développement?
Alors, effectivement, il y a des besoins à l'international. Donc, aujourd'hui, on se développe en France. Il faut savoir que la gamme actuelle, donc, ce sont des pastilles qui sont déclinées en plusieurs parfums et qui s'adressent à l'hydratation de tout le monde, effectivement. Donc, on ne l'a pas segmenté, mais tout le monde est concerné. Donc, ça va être par rapport au passe-temps de chacun, en fait, on va dire. Donc, on est distribué en pharmacie. Donc, on se développe déjà en pharmacie en France et on est vendu en ligne. Et sinon, pour l'international, il y a de réels besoins, de réels enjeux, notamment dans les crises humanitaires où l'hydratation est fondamentale. Mais on a aussi des besoins au niveau social en France, notamment dans les EHPAD avec les personnes âgées. Puisque les personnes âgées, alors on le sait, l'hydratation c'est très important pendant les périodes de canicule, c'est très médiatisé, mais c'est valable tout le reste de l'année.
Henri Poupard-Lafarge, patron d'Alstom, vous avez par ailleurs goûté, puisque pour être très honnête, nous avons tous goûté pendant votre pitch les pastilles que vous proposez chez Hydratis. Vous en pensez quoi ? Quel serait votre jugement de chef d'entreprise ?
D'abord, elles ont bon goût, ça c'est une première chose. Et ensuite, tu peux la projeter dans le secteur de mobilité, parce que c'est vrai que l'air conditionné a tendance à déshydrater. Et là, les trains sont de plus en plus conditionnés. Et donc, je crois que ça peut être un bon point pour le transport. Mais c'est vrai qu'il faut le cibler pour les différents usages.
Je vous laisserai ma carte.
on crée des ponts, hein, la France-Bourge. Hein. C'est fait pour
c'est
ça.
Merveilleux.
Je vois qu'il y a plusieurs couleurs. Ouais. Il y a rose, fruits des bois, jaune, orange. Pourquoi vous avez décidé ? C'est juste pour une question de goût ou il y a des effets différents pour chacun ?
Alors, effectivement, donc c'est une formulation qui va... C'est la même, en fait. Et on va juste développer en déclinant plusieurs parfums. Puisqu'on sait très bien que tout le monde a des goûts différents et ça s'adresse à tout le monde.
Et vous avez besoin de quoi aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a besoin de continuer de se développer.
Donc de l'argent.
Alors aujourd'hui, on est sur fonds propres. Hein, on s'est développé tout seul. Donc
bravo.
On a eu quand même le soutien de la BPI qui nous soutient dans le projet. Mais on s'est développé tout seul et tant qu'on peut aller au bout de notre mission qui est de continuer de développer des solutions de réhydratation et d'hydratation pour tout le monde, par nos propres moyens, c'est ce qu'on fera.
Eh bien, bravo. Eh ben, merci beaucoup pour ce projet.
Et si vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Europe 1. 13h48 pour le moment sur Europe 1. On reste ensemble. Dans un instant, demain au travail, on va parler qualité de vie au travail.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et la France bouge, dernière partie de votre émission, demain au travail. Nous sommes toujours avec notre patron du jour, Henri Poupard-Lafarge, le PDG d'Alstom.
Et on passe maintenant un coup de fil à Bernard Astruc. Bonjour.
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 Vous êtes le fondateur et directeur médical de Telmed. C'est une société qui s'occupe justement de la qualité de vie au travail. Alors, quitte à s'en occuper pour les autres, vous essayez de le faire aussi bien chez vous. On sait que parfois, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Mais au contraire, vous essayez d'être extrêmement pointu pour améliorer la qualité de vie au travail. Si je devais vous poser une question qui va peut-être vous étonner, le dispositif dont vous êtes le plus fier chez vous pour améliorer la qualité de vie au travail, c'est lequel ?
Alors, Telmed, c'est une société qui a 10 ans d'existence et il y a une particularité. Donc, avant de vous répondre, il faut que je vous réponde à cette particularité. C'est une société qui a une dizaine de salariés, mais qui a aussi des chefs de projet à l'extérieur et des collaborateurs ponctuels un peu partout dans le monde. Et tous ces gens-là sont réunis par une plateforme. Alors, la chose dont nous sommes la plus fiers, c'est qu'il y a du contact humain et il y a beaucoup d'échanges informels sur les outils que nous avons à travers des messages, des textos, des appels réguliers. Et ça, je pense que c'est la chose dont je peux être la plus fière à la société.
Quand on a préparé l'interview avec Elisabeth, il y a un point qui nous a particulièrement intéressé. Là, vous mettiez en avant le fait que vous travaillez avec des gens un peu aux quatre coins du monde, par exemple avec des psychologues aux quatre coins du monde. Et peu importe le pays où est le médecin, peu importe son sexe, et c'est encore heureux, il sera payé de la même manière qu'un autre. C'est un dispositif symbolique, mais important.
Alors oui, c'est au-delà du symbole. Alors d'une part, nous, quand nous facturons des prestations à des clients, que ce soit des grandes entreprises, des ONG, des organisations internationales, évidemment, c'est le même prix pour tout le monde. Et donc de la même façon, nous considérons que les gens qui travaillent dans ce domaine et qui apportent leur expertise, qu'ils soient psychologues au Mali ou à Buenos Aires ou à Paris, ils ont la même rémunération pour ça. Alors, c'est vrai que le niveau de vie n'est pas le même, etc. Oui. Mais nous avons mis en place ce projet de cette façon. Telmed est signataire, je ne sais pas si vous connaissez peut-être cette initiative, en tout cas le patron d'Alstom qui est avec vous doit la connaître, c'est le UN Global Compact, le Global Compact des Nations Unies, pour essayer de soutenir le respect des droits des individus, la tolérance, et donc c'est des valeurs qui nous portent depuis le début et que nous essayons, dans la mesure du possible, de porter chez nos clients, puisque nous intervenons dans les entreprises, dans les ONG, pour améliorer justement la qualité de vie au travail et plus précisément sur ce qui est la santé mentale des salariés, qui est vraiment notre cœur de métier.
Alors la santé mentale des salariés, il y a un exemple qui est très parlant en ce moment, puisqu'il y a pas mal de télétravail, notamment sur les managers. Vous, à distance, vous êtes aperçu que ce n'est pas toujours évident de déceler si lorsqu'un membre de l'équipe va mal. Et là aussi, vous avez repensé les méthodes de management en proposant des ateliers notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, l'idée, c'est qu'à distance, ben, les gens essaient de se protéger un petit peu dans leur vie privée. C'est un mélange entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, souvent, il y a des échanges informels qui se font dans l'entreprise qui sont beaucoup plus difficiles à distance. Donc, pour favoriser ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on s'est dit, on va prendre du temps pour ça. On va prendre du temps sur le temps travaillé, le temps payé, pour faire ces échanges informels au sein de notre structure. Donc ça veut dire concrètement c'est quoi ? C'est du temps qu'ont passé les trois directeurs de la société dont je fais partie, avec les salariés, avec les collaborateurs, pour voir comment ça se passait pour eux, sans être intrusif. C'est toujours difficile quand vous dites à quelqu'un vous travaillez où, ça se passe comment ? C'est intrusif certes, mais parfois c'est utile. Parce qu'il y a des gens qui ont pu dire comme ça, bah, écoute, moi je habite dans 15 mètres carrés, c'est un peu compliqué. Et donc à ce moment-là, on a dit à cette personne, bah, si vous êtes à Paris, parce que le siège de la société est à Paris, si vous êtes à Paris, venez dans les locaux, ils sont libres, on fera en sorte ce jour-là que vous soyez seul ou juste deux personnes pour ne pas vous croiser, pour respecter évidemment les gestes barrières. Vous pourrez utiliser ces locaux un peu comme un espace de coworking, que vous soyez salarié ou pas salarié. Et si vous avez besoin de quelque chose à distance pour travailler, ben on va vous le fournir. Parce que ce temps d'échange informel, il est nécessaire pour la
Effectivement,
vie de
l'entreprise. Effectivement, c'est souvent ce qui est le plus compliqué dans le cadre du télétravail. Merci beaucoup Bernard Instruc, fondateur et directeur médical de Telmed. La qualité de vie au travail, vous n'allez pas me dire, Henri Poupard-Lafarge, que ça ne vous intéresse pas. Comment vous sortez de cette crise ? Quel est, vous, en tant que manager, l'enseignement que vous en avez le plus retenu pour améliorer cette qualité de vie au travail chez Alstom pour vos collaborateurs ?
Moi, ce que j'en ai retenu d'abord, c'est absolument cœur dans la vie de l'entreprise, la qualité de vie au travail. Traditionnellement, l'industrie a beaucoup travaillé sur les accidents. Donc, on a fait des progrès énormes dans les dernières décennies sur le nombre d'accidents au travail. Il faut vraiment qu'on s'attaque à ce problème de la qualité de vie et finalement du bonheur au travail. Moi, la crise, ce qu'elle a révélé, c'est un énorme potentiel. Ce télétravail, il faut le voir comme un potentiel. Pour la plupart des gens, c'est une amélioration significative de leur qualité de vie tout court. Maintenant, il y a, comme ça a été rappelé, un certain nombre de dangers, d'isolement, etc., et qu'il faut traiter. Donc, il y a besoin de repenser complètement notre rapport au travail et comment bénéficier au maximum des nouveaux outils sans isoler les gens. Et ça, c'est un vrai, vrai travail à faire.
Vous allez être aussi confronté au défi d'avoir deux cultures quand vous allez fusionner avec Bombardier. C'est très difficile à préparer. Ça peut créer beaucoup d'angoisse pour les salariés.
Alors, nous, on va avoir à intégrer deux cultures ensemble avec le défi qu'on va devoir le faire largement à distance. Parce que malheureusement, au mois de janvier, quand l'intégration aura lieu, très probablement que beaucoup de restrictions seront toujours là. Et donc, toute cette problématique d'intégrer les gens, de faire parler les gens à distance, de garder quand même des outils de manière à ce qu'il y ait avoir des contacts un petit peu plus physiques, tout ça devra être mis en place.
Donc, vous êtes déjà en train de travailler dessus en ce moment ?
Ah oui, nous sommes déjà en train de travailler dessus.
Merci en tout cas Henri Poupard-Lafarge d'avoir été notre patron du jour. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Alstom et puis c'est la fin de votre émission. On se retrouve demain, Emmanuel,
pareil, Elisabeth,
à 13h.
On sera là. Oui, on sera là. On va parler de quoi ? Eh bien, on va parler de financement des entreprises avec notamment toute cette plateforme là dont on vous parle souvent, Ulule, KissKiss, BankBank, qui permettent à des tout petits projets de voir le jour. Et bien, on sera justement avec le fondateur et patron de KissKiss, BankBank demain, 13h sur Europe 1.
Et bien, à demain, 13h. Et dans un instant, Christophe Ondelat.